Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Ma chronique numéro 44 d'aujourd'hui a pour titre générique « Mascarade » au pluriel. Dans l'actualité économique générale et coin, le premier masque va être celui du totalitarisme. Tout le monde se rappelle de la sinistre affaire des cendres volcaniques. L'Islande, située au milieu de l'Atlantique, sur la dorsale médio-océanique, à la divergence des plaques tectoniques eurasiatiques et américaines, la place dans la situation exceptionnelle d'une des régions tectoniques les plus actives du monde, avec plus de 200 volcans et 600 sources d'eau chaude. Si le pays exploite cette opportunité pour produire son électricité et alimenter son réseau de chaleur, géothermie, une nouvelle éruption fissurale à proximité du glacier Eyjafjallajökull, je ne garantis pas la prononciation, inquiétait les volcanologues et autres hauts fonctionnaires en avril-mai dernier. La suite de l'affaire est désastreuse, comme le rappelle une question au Parlement européen parue la semaine dernière, le 3 décembre dernier, de Marianne Jean Marinescu et Mathieu Groche. Alors que des mesures devaient être prises pour ne plus répliquer, qu'en termes volcanologiques ces choses-là sont traduites par moi, j'y reviendrai plus loin, les fautes commises ayant provoqué d'énormes dommages économiques avec plus de 10 millions de passagers lésés. Rien ne semble fait. Leur question orale réclame des moyens technologiques supplémentaires pour accroître, paraît-il, la fiabilité en nombre et en qualité des données exploitables par les opérateurs, entre guillemets, soudainement reconnus comme libres de leurs appréciations professionnelles. On se rappelle que les pilotes se sont vus confrontés à des aéroports fermés arbitrairement. Pourtant, les pilotes et leurs compagnies sont bien mieux aptes à définir les conditions de vol que n'importe qui d'autre, comme on l'a vu alors. Mais la supposée nécessité d'aggraver, dirais-je, plutôt qu'augmenter, les équipements au sol ou en l'air, des régulateurs VAC, c'est-à-dire un bidule centre, conseil en cendres volcaniques, et contrôles aériens divers, obligent ces députés européens à demander où en serait l'état d'avancement des mesures envisagées. La transparence des processus de prise de décision des hauts fonctionnaires est réclamée afin de garantir de meilleures réponses, mieux coordonnées en cas de crise. Pour moi, ce fut plutôt une crise de rire devant tellement d'incompétence et d'autoritarismes aigus des hauts fonctionnaires de Bruxelles qui me rappelaient fichtrement la pseudo-crise, toujours, d'un volcan qui ne s'est jamais réveillé à l'époque du tout en France d'outre-mer, comme l'avait bien prévu Haroun Taziev, contre les craintes irresponsables et totalement opaques d'un certain Allègre. Mais le totalitarisme réclame encore, en plus, la mise en place du ciel unique européen, toujours, et l'augmentation de l'emprise de l'AESA, Agence européenne de sécurité aérienne, sur la circulation aérienne publique, qui ne devrait donc plus être libre, mais asservie. Le désastre sismologique, volcanique et tectonique a été bien plus dû aux craintes irresponsables des hauts fonctionnaires à la recherche d'un parapluie de mesures de protection personnelle de leurs actes administratifs qu'à la réalité d'un risque qu'il était aisé de parer avec les connaissances des pilotes et des compagnies, ce que j'ai répété sans cesse à l'époque. Cette question ne va donc pas dans le bon sens, avec jeu de mots. Dans l'actualité économique, financière et éco-2, c'est le masque du racket. Un vieux sujet d'études supérieures de banque que j'ai bien sûr continué de tenir à jour, comme tout le reste, est l'inversion des taux. L'inversion des taux se matérialise lorsque les taux à long terme sont moins élevés que les taux à court terme. Quelques exemples de la situation actuelle. L'Allemagne offre des taux d'intérêt à long terme de 2,35%, tandis que la Grèce est obligée de payer du 9,57%. Le parallèle existe hors zone euro. Le Danemark peut se permettre de n'offrir que du 2,46% tandis que la Latvia, la Lettonie, doit payer du 9,24%. Le parallèle se confirme dans l'évolution depuis un an des taux à long terme en Europe. L'Allemagne diminue les coûts de son endettement depuis un an, passant d'un taux à long terme de 3,21% à 2,35%, tout comme hors euro, le Danemark est passé de 3,60% à 2,46%, et la Lettonie, Latvia, de 13,51% à, entre guillemets, seulement 9,24%, encore bien trop élevé évidemment. Même chose chez les mauvais élèves, entre guillemets. La Grèce est passée de l'enfer au super enfer en passant de 4,57% à 9,57%. La France, dans ce contexte, reste arrimée à l'Allemagne avec une évolution des taux à long terme passant en un an de 3,56 à 2,72. Sans commentaire, je deviendrai très méchant. Disons que les apparences sont sauves. Les pays GS, les pays en difficulté de la zone euro, s'enfoncent, comme l'Irlande, à 7,78% le 8 novembre dernier. Les taux à court terme, eux, sont beaucoup plus élevés et atteignent même des taux usuraires pour les particuliers à près de 20%. Bien sûr, il existe des taux de crédit personnel à 2,7% en Europe, mais jamais votre banque ne vous les propose, n'est-ce pas ? Je ne parle pas des taux islamiques à zéro, au terme de la charia, qui ne résistent pas à l'examen des énormes ponctions permises sur les profits ou les capitaux. Il s'agit là d'une duperie de l'islam qui se vante de n'exiger aucun intérêt contre prêt d'argent, mais ne se prive pas de réclamer le bol ou des parts dans le gâteau du malheureux emprunteur. Bref, la hiérarchie des taux inversés permet ceci. Emprunter à long terme à bas coût et prêter à court terme avec des profits très élevés. C'est la base même du commerce de l'argent et donc des profits bancaires ou assimilés. Laquelle rencontre, comme vous voyez, les soucis étatiques. Je dois vous rappeler que cette situation n'est pas normale. En réalité, l'État, dans le temps, veillait à faire rémunérer plus les prêts à long terme que les prêts à court terme. La hiérarchie des taux était alors dite normale. Elle s'est inversée au fur et à mesure de l'augmentation de la dépendance de l'État vis-à-vis des banques. Même si cette dépendance est devenue une interdépendance depuis 2008, le bras de fer se poursuit. Au frais des taillables et corvéables à merci, les contribuables, comme dirait quelqu'un de ma connaissance. Dans l'actualité économique, monétaire et Co3, le troisième masque est celui du séisme. Éric Cantona, footballeur professionnel, a été utilisé pour sa figure très populaire. Il a relayé l'appel d'un bank run, traduisons « course au retrait massif de monnaie fiduciaire libre au guichet bancaire ». Cet appel m'a, de suite, il y a quelques semaines, paru être une opération des services secrets US relayée par Londres, comme elle a coutumé depuis plusieurs décennies. On se souvient des fameux tracts signés d'une organisation supposée « terroriste », entre guillemets, Al-Qaïda, qui veut dire « la base », laquelle en fait était de source bancaire islamiste en Arabie Saoudite. Elle a lancé la conquête de l'Occident par le moyen des pétrodollars de l'OPEP. Conquête que les traîtres, placés au poste de commande des pays occidentaux, relaye avec un zèle qui ne passe plus du tout inaperçu. Pourquoi, selon mes suppositions, s'agit-il d'un coup monté ? Parce que le monde bancaire international et occidental, surtout, est loin d'être homogène et que des tiraillements de plus en plus forts se font jour. Pour ressouder les rangs des banques, rien de mieux que de leur faire sentir leur fragilité et leur dépendance vis-à-vis des lois nationales qui les consolident. Tout changement politique, par éviction de leur pantin sectaire en place et leur remplacement par de vraies politiques au service de leur peuple, leur serait fatal. C'est évidemment Bruxelles, la Commission européenne et le nouveau président de l'UE, Van Rompuy, qui ont très probablement téléguidé cette opération afin de tenter de faire cesser les rumeurs grandissantes par trop révélatrice de la fragilité de la pseudo-monnaie unique, l'euro. Comme par hasard, dans le même temps, cette semaine, il n'est plus du tout question d'articles critiques parlant d'explosion possible de la zone euro, comme encore il y en avait plein la semaine dernière. De plus, une question orale au Parlement dit européen de Sharon Bowles au nom de la Commission des affaires économiques et monétaires, posée à la Commission, réclame la mise en place d'un fonds de stabilisation financière de la zone euro. Cette question s'appuie au passage sur les tensions que révèlent les marchés, tensions sismiques de l'ensemble financier occidental qui ne sont elles-mêmes que les symptômes d'un mouvement souterrain très fort, trop sûrement, qui tend à séparer les plaques et à les lancer dans une dérive s'élargissant au point de provoquer la fin de l'euro. Les principales plaques continentales en cours de séparation sont l'Irlande, le Portugal et la Grèce. La France n'est déjà plus rien d'autre que l'instrument de l'Allemagne, vérolé par les anglo-saxons, autant dire rien. Ce n'est plus qu'un gros morceau d'Europe, complètement phagocyté par ses ennemis héréditaires, que jamais aucune de leurs occupations militaires historiques n'avait jusqu'ici réussi à coloniser à ce point. Officiellement, l'Union européenne assure que l'euro ne court aucun risque. En réalité, sa fragilité est tellement évidente qu'un député européen, M. Nigel Farage, s'est permis, sans être contredit, de stigmatiser violemment en séance l'échec complet de la politique suivie depuis 30 ans de la construction européenne qui a mis la charrue avant les bœufs avec le passage à l'euro, phase 3 supposée d'un mécanisme complètement perverti. Le traité de Maastricht a été violé en 96-98. Qui plus est, le traité de Lisbonne, comme on sait imposé outrancièrement, devra être modifié dans les douleurs pour permettre la mise en place de cet éventuel fonds de stabilisation financière européen, comme le précise, et s'en inquiète, la question posée de Sharon Bowles. Car ce traité interdit le soutien aux pays en difficulté et l'Allemagne n'a pas constitutionnellement la possibilité de s'y engager. Voir à ce sujet mes précédentes chroniques. Les tensions vont donc dégénérer jusqu'à la dérive des continents émergents de l'océan de la faillite bancaire, largement encouragée par les États maçonniquement gouvernés. Il n'y a qu'à voir leur gueule, entre guillemets, comme celle de Van Rompuy dans la vidéo ci-dessous, dénoncée comme telle par Nigel Farage. Dans ce contexte, la manipulation soudain très discrète, alors qu'elle se voulait tapageuse, de ce pauvre casque lourd primaire de Cantona, qui ignore tout de la chose monétaire, ne pouvait que faire un bide, sans commentaire. Par contre, je puis vous indiquer ce qu'il fallait faire, ou ce qu'il aurait dû faire, il aurait dû falloir faire. Ne plus rien domicilier en banque ou organisme assimilé. Plus de salaire, plus de pension, plus de virement, et toucher ses salaires et pensions au guichet des caisses et des employeurs en espèces. Cela viderait réellement le cartel des banques de ses ressources. Là, oui, l'effet serait dur. Et il ne faudrait pas que dans le même temps, la Banque centrale refinance les faillites bancaires comme elle le fait actuellement. Seulement, voilà, les lois en vigueur prétendent, en violation des lois fondamentales, obliger les employeurs à ne payer les emplois que par virement et jamais plus en espèces. Les caisses des systèmes dits sociaux sont vides depuis 20 ans au moins et ne fonctionnent plus que par crédit bancaire, donc refile, entre guillemets, aux banques les ressources qu'elles refusent aux libertés des gens. Le problème n'est donc plus malheureusement aussi simple que faire des retraits. Ce fut vrai, ça ne l'est plus. Lesquels reviennent, ces retraits, immédiatement chez les banques, via la banque centrale. Il est devenu ce problème politique. Il faut élire des gens qui vont supprimer toutes les lois liberticides et donc rétablir la liberté de percevoir son salaire et ses pensions en monnaie libre. Il faudra alors que l'État cesse de vouloir tout contrôler et respecte à nouveau, comme dans le temps, la souveraineté des gens sur eux-mêmes, accepte de mettre fin à sa tutelle sur eux. Tout un programme, le seul qui vaille d'ailleurs, et sur lequel je me propose et appelle une nouvelle fois tous les Français courageux, sincères et libres de tout autre engagement à se rallier. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeur de Radio Silence.